Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est midi en temps universel, 14h ici à Paris. C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Un réseau électrique qui s'effondre en l'espace de 5 secondes. Pourquoi ? Comment ? Pour l'instant, on procède par élimination après la panne d'électricité géante qui a perturbé l'Espagne et le Portugal. Ce n'est pas une cyberattaque selon les deux pays. Ce n'est pas lié à un manque d'énergie nucléaire selon Madrid. Au Canada, c'est gagné pour Marc Carney, le libéral vainqueur des législatives sur fond de confrontation avec les États-Unis voisins. Il promet de ne jamais oublier la trahison américaine. En Israël, après plus d'un an et demi de guerre sans fin à Gaza, le Premier ministre, justement, commencerait à envisager d'y mettre un terme, selon la presse. Mais pas tout de suite et pas avec une solution politique.
RFI Midi.
À suivre aussi une nouvelle guerre des étoiles, en quelque sorte. Amazon a lancé les premiers satellites de sa constellation pour une connexion Internet très haut débit et vient marcher sur les plates-bandes du géant Starlink d'Elon Musk. Et puis une chaude soirée en perspective à Londres pour la première demi-finale de la Ligue des champions de foot. Arsenal-PSG, rendez-vous à partir de 19h, temps universel. En direct sur RFI et l'avant-match, c'est dans un petit quart d'heure.
On ne parle que de ça, ou presque, en Espagne. L'apagone, la grande coupure qui a provoqué des situations chaotiques dans le pays.
Là, le courant est quasiment rétabli, hein, à 100% en Espagne et au Portugal, également touché par cette panne titanesque. Entre les trains bloqués, les métros fermés, les ascenseurs coincés, les distributeurs HS et les congélateurs décongelés, chacun a son histoire à raconter. François Musso, on vous retrouve à Madrid. Vous êtes en direct. Alors, 24 heures après cette méga panne, les causes restent encore assez floues. La piste, en tout cas, d'une cyberattaque est écartée.
Oui, en tout cas, le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, prend les choses très au sérieux. On sait à quel point tout le pays l'attend en ce qui concerne les causes. Donc, d'où le lancement de cette commission d'enquête pour faire toute la vérité sur cette coupure sans précédent en Espagne. Et effectivement, il a écarté l'hypothèse d'une cyberattaque, notamment en provenance de Russie. Il a reconnu même qu'il y avait une déficience au niveau technique. Sanchez a reconnu que les opérateurs du réseau électrique national n'ont pas su bien gérer la génération d'électricité ce lundi à 12h33 précisément et n'ont pu éviter, je cite, une oscillation brutale dans le flux d'énergie qui a entraîné la coupure générale du système. Un des responsables du réseau national a indiqué que la production excessive d'énergie renouvelable, éolienne et photovoltaïque, des sources d'énergie fluctuantes, serait la cause de l'accident, de quoi donner du grain à moudre à l'opposition de droite qui s'oppose à la fermeture des centrales nucléaires confirmée en début d'année par les socialistes.
François Musso en direct de Madrid et à l'instant, la justice espagnole annonce l'ouverture d'une enquête sur un éventuel sabotage informatique. L'Union européenne, elle, indique qu'elle tirera les leçons de cette panne électrique d'une ampleur inédite. Petit clin d'œil au passage à ceux qui aiment la radio. Hein. Beaucoup d'Espagnols ont redécouvert hier le bon vieux transistor à pile pour être à l'écoute des dernières nouvelles.
On y revient toujours. Paris réussi pour Marc Carney, le libéral, vainqueur des élections législatives anticipées au Canada.
Et pourtant, ce n'était pas gagné pour cet économiste reconnu mais novice en politique. Face au conservateur Marc Poilievre, il a su convaincre les électeurs, notamment sur sa capacité à faire face à Donald Trump, le président américain qui a malmené son voisin depuis son retour à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, dans ses toutes premières déclarations, Marc Carney a parlé d'une trahison américaine. Pour lui, l'ancienne relation avec les États-Unis est terminé. Reportage à son QG à Ottawa, Marine de la Massonnière.
C'est incroyable. Il est 22h et les libéraux ont déjà gagné. Je ne pourrais pas être plus heureux.
Jason Vadji n'en revient pas. Au début de l'année, les libéraux s'attendaient à prendre une raclée face aux conservateurs. Mais Donald Trump a changé la donne. Pour ce consultant de 32 ans, Marc Carney doit désormais faire fléchir le président américain.
Sa priorité, ça doit être Donald Trump. Il doit protéger l'économie canadienne des droits de douane. Les travailleurs, l'industrie, c'est sa mission numéro un.
Anna Price, 18 ans, a elle aussi l'impression de vivre un moment historique, mais cette étudiante ne perd pas de vue la suite.
Je veux de la transparence, je veux que Marc Carney nous dise ce qu'il compte faire. Donald Trump est une vraie menace pour les Canadiens. Je n'ai aucun doute sur le fait que Mark Carney va être génial. Son CV est impressionnant. Mais je veux qu'il nous tienne au courant. Je n'aime pas que les politiciens nous cachent des choses.
Mark Carney va très vite avoir l'occasion de se mesurer à Donald Trump. Les négociations en vue d'un nouvel accord commercial entre les deux pays sont censées commencer début mai. Hier soir, il a promis qu'il ne se laisserait pas faire. Marine de la Moissonnière, Ottawa, RFI.
Et parmi les réactions internationales, elles sont nombreuses. Le président français Emmanuel Macron écrit « Hâte d'œuvrer à tes côtés, de nous serrer les coudes », je cite. Félicitations aussi à Mark Carney de la part de la Chine, de l'Inde, du Royaume-Uni ou encore de l'Ukraine. Le président Zelensky se dit convaincu que le partenariat Kiev-Ottawa va se renforcer. L'Ukraine et la Russie qui se sont mutuellement attaquées la nuit dernière en pleine effervescence diplomatique pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu entre les deux pays. Des frappes de drones donc dans la région de Belgorod côté russe, dans celle de Dnipropetrovsk dans l'Est côté ukrainien. Au moins 3 civils ont été tués.
La Russie, mais aussi les États-Unis et la Chine, accusés de saper les acquis du droit international selon l'organisation Amnesty.
L'ONG publie son rapport aujourd'hui sur la situation des droits de l'homme dans le monde et insiste notamment sur la situation à Gaza. Le monde assiste à un génocide en direct sur ses écrans commis par Israël dans le territoire palestinien, écrit la secrétaire générale de l'ONG. Plus d'un an et demi de conflit, au moins 52 000 morts. Mais selon la presse israélienne, Sami Bourelifa, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou commencerait à envisager la fin de la guerre d'ici quelques mois.
L'arrêt des combats interviendrait d'ici octobre 2025, soit après presque 2 ans de guerre, selon le journal Israel Hayom, qui cite des sources proches de Benjamin Netanyahou. Jusque-là, le premier ministre israélien a toujours refusé d'évoquer la fin des bombardements et de l'incursion de ses troupes à Gaza, répétant sans cesse que la guerre allait être longue et difficile. Ces déclarations surviennent au moment où Washington exprime sa volonté de mettre un terme à cette situation. Mais la fin de la guerre ne signifie pas la fin de l'occupation militaire. Lors d'un discours en début de semaine, Benjamin Netanyahou a averti, le Hamas n'a pas sa place à Gaza et l'autorité palestinienne non plus. Pourquoi remplacer un régime qui souhaite notre destruction par un autre régime qui souhaite notre destruction ? Israël rejette ainsi toute solution politique. En attendant, à Gaza, la population subit des massacres quotidiens et le premier ministre israélien continue de plaider pour le départ volontaire des Gazaouis, une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international. Sami Bourelifa, Jérusalem. RFI.
Et après les accusations de génocide répétées par Amnesty International, Israël vient de condamner des mensonges sans fondement, je cite. L'angoisse dans le quartier de Jaramana, dans la banlieue de Damas, c'est en Syrie. Après des affrontements entre forces de sécurité et combattants druzes la nuit dernière, le dernier bilan avancé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme est de 9 tués. Les autorités de la coalition islamiste au pouvoir promettent de poursuivre les hommes armés impliqués. Ces nouvelles violences interviennent un mois après les massacres qui avaient visé la minorité alaouite.
L'escalade entre New Delhi et Islamabad, le torchon brûle depuis l'attaque au Cachemire qui a fait 26 morts. Attaque non revendiquée mais attribuée par l'Inde au Pakistan voisin.
C'était mardi dernier et depuis des incidents ont lieu tous les jours à la frontière. Les autorités indiennes ont aussi multiplié les mesures de rétorsion. Elles ont notamment ordonné aux citoyens pakistanais de quitter l'Inde, de quitter le territoire. Et c'est aujourd'hui, ce mardi, la date butoir. Plus de 500 seraient déjà partis comme Bastin.
Vu l'animosité entre les frères ennemis nés de la partition en 1947, la communauté pakistanaise en Inde est réduite. Différents États la chiffrent en centaines ou en milliers sur leur territoire, mais il n'existe pas de recensement national et l'Inde n'a pas communiqué de chiffres sur la question. Il serait 537 à avoir passé la frontière d'Atari dans le Pendjab, où les armées des deux pays se font face lors de parades. D'autres ont emprunté les voies aériennes. Difficile donc de savoir combien sont restés en dépit du risque de 3 ans de prison. La classe politique et la société indienne soutiennent la décision de Narendra Modi. Les médias rendent compte cependant de scènes de larmes à la frontière, comme le Pakistan a riposté en expulsant aussi des Indiens. Les familles mixtes sont condamnées à la déchirure du jour au lendemain, comme une partition miniature. Après ces expulsions, les deux pays semblent irréconciliables. Seuls leurs gouvernements se font désormais face, multipliant les sanctions et les menaces, alors que des échanges de tirs ont lieu depuis 5 jours le long de leurs frontières disputées. Combastin, Bangalore, RFI.
L'Inde où il fait particulièrement chaud en ce moment, comme au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, en Iran, au Koweït ou dans plusieurs autres pays du Moyen-Orient, une canicule qui dure depuis plusieurs jours. Et nous en parlerons dans 10 minutes avec notre invité, le climatologue Jean-Pascal Van Hypersel. La suite de votre journal, Charlotte, avec Amazon à la conquête de l'espace. L'entreprise de Jeff Bezos a lancé ses premiers satellites depuis la base de Cap Canaveral en Floride.
Et c'est en principe le début d'une longue série. Le projet baptisé Kuiper, il vise à fournir une connexion Internet haut débit, comme Starlink, le réseau d'Elon Musk qui propose déjà un service très similaire. Alors est-ce que ce projet Amazon pourrait le concurrencer, l'IA voisin Pilo?
Pour l'instant, difficile d'anticiper. Kuiper n'en est qu'à ses débuts. À terme, le réseau devrait compter 3200 satellites, dont la moitié mise en orbite d'ici l'année prochaine. Paul Warrer est responsable du programme Espace à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
L'intérêt qu'il peut y avoir avec Kuiper, d'abord, c'est que ça fait de la concurrence, donc il est possible que ça tire les prix vers le bas. Le deuxième aspect, c'est tout l'intérêt de la connectivité avec l'infrastructure Amazon et notamment toute l'infrastructure cloud, en plus d'avoir accès à des services de connectivité par satellite.
De son côté, Starlink est déjà bien implanté, près de 7000 satellites, mais ce réseau dépend de l'entreprise SpaceX et son principal défaut, c'est peut-être son propriétaire.
Il appartient à Elon Musk, qui a un contrôle très très important sur le système, qui est capable de le couper à peu près à n'importe quel moment. Des armées notamment qui souhaiteraient s'équiper de connectivité par satellite hésitent très fortement à utiliser la solution Starlink, simplement du fait de la dépendance que ça créerait envers un acteur jugé comme assez peu fiable, comme Elon Musk.
Ces derniers mois, Starlink est régulièrement attaqué. La Russie et la Chine cherchent à brouiller les signaux de ces satellites. Et d'après Paul Warrer, le réseau Kuiper pourrait connaître le même sort.
Une minute de silence en France, elle sera observée tout à l'heure à l'Assemblée nationale en hommage à Aboubacar Cissé.
Oui, ce jeune Malien tué de plusieurs coups de couteau dans une mosquée du Gard, c'était à la Grande Combe, c'était vendredi dernier. Le meurtrier s'est rendu en Italie, il a avoué, mais il a nié avoir agi par haine de l'islam. Cette minute de silence, donc annoncée par la présidente de l'Assemblée, elle était réclamée par plusieurs responsables de gauche qui ont invité la famille d'Aboubacar Cissé aujourd'hui à l'Assemblée. Et parmi ces responsable l'écologiste Marine Tondelier.
La minute de silence, elle a accepté, tant mieux. On ne va pas la remercier, la présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est normal. Et d'ailleurs, on ne la remercie pas, encore moins, d'avoir tergiversé pendant toutes ces heures, d'avoir tortillé, de s'être contorsionné, d'avoir coupé les cheveux en quatre pour trouver des arguments pour lesquels peut-être elle pourrait justifier de ne pas le faire. C'est la République, elle est une et indivisible. Personnes qui sont assassinées du fait de leur religion, si elles sont musulmanes ou si elles sont catholiques ou si elles sont de notre confession, doivent bénéficier de la même dignité, du même respect de la part des institutions républicaines, de la part de tout le personnel politique. Et vous voyez, le fait que certains se contorsionnent pour ne pas prononcer le mot islamophobie montre que oui, il y a un problème d'islamophobie dans ce pays.
L'écologiste Marine Tondelier, donc propos recueillis à l'Assemblée par Charlotte Turien-Tomaca. En France encore, c'est Florence Parly qui a été nommée présidente du conseil d'administration d'Air France KLM. L'ancienne ministre des Armées prendra ses fonctions le 4 juin, précision du groupe de transport aérien.
C'est le retour d'un grand nom de la salsa cubaine, Isaac Delgado.
Nouvel album, nouvelle tournée, un single en playlist RFI, Isaac Delgado, qui continue de nous faire danser, Hugo Casalino.
Connaissez-vous la timba? La timba, vous venez de l'entendre, c'est cette salsa cubaine qui s'est vue moderniser fin des années 80 grâce à l'introduction de la batterie, des synthétiseurs, mais aussi des rythmes funky et jazz rock. Originaire de La Havane, Isaac Delgado est devenu le chanteur incontournable de cette timba, porté par des groupes comme Enrique La Banda, avec qui il a chanté, ou Los Bamban. On n'entend plus parler de lui depuis 2010, mais sans que cela entame sa popularité. La preuve en est, il gagne un Grammy il y a 3 ans avec un magnifique album Hommage au Cha-Cha-Cha, album coécrit avec la Orquesta Aragón et son acolyte de toujours, le bassiste Alan Pérez. Il revient avec un nouveau projet prévu pour la fin du mois, Mira Como Vengo, un album qu'il défendra lors d'une tournée, notamment en France cet été, dans différents festivals. Premier extrait en playlist RFI de ce nouvel album, le single très timba justement, Tu Pensabas, toujours avec son compère Alan Pérez. Une playlist que vous retrouvez, comme toujours, sur RFI.fr et sur toutes les plateformes musicales.
Voilà, vous savez tout, il n'y a plus qu'à aller écouter. 14h15 à Paris, Charlotte Hydrac, on vous retrouve tout à l'heure. Et pour l'heure, on va parler de sport. À tout à l'heure. Bonjour Christophe Dirindl.
Bonjour Anne.
Alors jamais 203, le Paris Saint-Germain va tenter de le démontrer à partir de ce soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions de football face à Arsenal.
Oui, Liverpool a craqué en huitième de finale, Aston Villa est tombé en quart. Les Gunners vont-ils subir le même sort que ces autres clubs anglais qui se sont frottés à l'équipe parisienne la plus séduisante de ces dernières années? Ce serait oublier un peu vite la froide réalité statistique. Le PSG n'a jamais battu Arsenal, qui plus est invaincu à Londres en Ligue des Champions depuis deux saisons. Mais il y a les chiffres d'un côté et la volonté de faire l'histoire de l'autre, même battu vendredi en Ligue 1 pour la première fois de la saison et un peu moins impressionnant collectivement. Paris veut la coupe aux grandes oreilles, comme Arsenal, faute d'avoir été sacré en Première Ligue. Et son entraîneur Mikel Arteta trouve que c'est pile le bon moment vu le contexte.
C'est vrai qu'on ressent beaucoup d'énergie autour de nous, beaucoup d'enthousiasme, quelque chose d'unique que seuls les grands matchs peuvent provoquer. On a hâte de jouer cette rencontre, d'autant plus au vu des circonstances, toutes les blessures, les défis auxquels nous avons été confrontés cette saison. Et voir l'équipe parmi les quatre meilleures d'Europe, ça montre à quel point on a des ressources, mais aussi notre mentalité. On écrit l'histoire depuis quelque temps, une très belle histoire, mais on en veut beaucoup plus.
We are making history. It's a beautiful story right now, but we want much more.
Mikel Arteta, ambitieux pour Arsenal face au PSG à l'Emirates Stadium, première demi-finale aller de la Ligue des Champions, à suivre en intégralité sur RFI à partir de 19h temps universel, avec Cédric de Oliveira à Londres, Sofiane Amazian et notre consultant Patrick Julliard en studio, et dans la foulée bien sûr un Radio Foot international spécial en direct autour d'Annie Gasny.
Un autre club de football parisien à l'honneur, mais chez les féminines cette fois, le Paris FC décroche les principales récompenses annuelles de la Ligue professionnelle.
Oui, pour la première saison de cette Ligue, c'est l'attaquante internationale Clara Matteo qui a été sacrée meilleure joueuse, l'actuelle meilleure buteuse du championnat, avec 18 réalisations, à devancer deux Lyonnaises, la haïtienne Melchie Dumornay et l'américaine Lindsay Horan. Sandrine Soubéran, l'entraîneur du PFC, remporte le trophée dans sa catégorie. L'OL se contente du titre de meilleure gardienne avec la chilienne Christiane Handler qui succède à la nigériane du Paris FC, Chiamaka Nnadozie.
Paris, décidément, dans l'actualité en football mais aussi en basket. Le club de la capitale est dos au mur en quart de finale de l'Euroleague.
Et oui, deux défaites sur le parquet des Turcs de Fenerbahçe pour commencer la série qui se gagne au meilleur des cinq manches. Une troisième ce soir à domicile et vous l'avez compris, ce sera terminé. Paris a grillé tous ses jokers mais espère au moins retarder l'échéance dans l'Adidas Arena qui affichera complet. Source de motivation, les Parisiens ont remporté ce week-end la finale de la Coupe de France face au Mans. Succès riche en enseignements pour ce nouveau duel avec le club d'Istanbul, estime l'arrière Yacouba Ouattara.
Déjà l'unité qu'on a pu avoir ensemble, la défense, l'agressivité défensive qu'on a pu déployer. Tout ça, et puis le fait de gagner aussi, ça permet de remettre un coup de confiance et justement redonner un petit boost pour ce qui nous attend. On les a toujours pas battus, mais on reste confiant quand même. Je pense que depuis le début de saison, tous les pronostics nous donnaient perdants ou dans le bas du classement et on a toujours su déjouer tout ça et on va le faire encore une fois.
Yacouba Ouattara avec Babacar Diarra, Paris Basket, Fenerbahçe, 18h30 temps universel. Autre quart de finale avec nouvelle manche aujourd'hui. Le Real Madrid, formation la plus titrée de l'Euroleague, est aussi en grand danger avant de recevoir les Grecs de l'Olympiakos car elle est également menée 2-0. Madrid en panne de succès en basket. Madrid et son Masters 1000 de tennis en panne de courant hier, comme d'ailleurs le reste de l'Espagne. L'électricité est revenue ce matin dans le stade du tournoi, mais il y a évidemment beaucoup de retard à rattraper, 22 matchs reportés à aujourd'hui, notamment un huitième de finale féminin en cours entre la Polonaise Iga Świątek, numéro 2 mondiale, et la Russe Diana Schneider.
Merci Christophe Dirindl.
RFI. Le Monde à midi.
Il fait très chaud, beaucoup trop chaud au Moyen-Orient et dans toute une partie de l'Asie. 46 degrés en Irak, 46 aussi dans le sud de l'Iran, 48 au Pakistan, 49 degrés au Koweït. Et nous sommes en ligne pour parler de cette canicule avec le climatologue Jean-Pascal Van Ypersel. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes membre de la plateforme Wallonne pour le GIEC. Alors, c'est le début de la saison chaude dans ces régions, mais tout de même, les températures sont particulièrement élevées. Cette situation, elle est extraordinaire.
Oui, parce que beaucoup de records ont été battus, y compris des records de température pendant la nuit. Et on sait à quel point garder une température supportable pendant la nuit est important pour la santé humaine, parce que si la température pendant la nuit ne permet pas au corps humain de récupérer des chaleurs très vives pendant la journée, mais les effets sur la santé, même la mortalité, peuvent être très importants. Donc oui, c'est une situation exceptionnelle. Maintenant, on sait malheureusement avec les tendances, la tendance au réchauffement du climat mondial, que ce sont des situations vers lesquelles on va aller de plus en plus souvent, de plus en plus intensément. Surtout si on continue à ne pas faire assez pour réduire les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre.
Il y a les températures la nuit dont vous nous parliez. Je donne un exemple. En Iran, le mercure n'est pas descendu sous les 20 degrés, même à 2000 mètres d'altitude. Donc, il n'y a ni de moment ni d'espace où on peut trouver un peu de fraîcheur. Et puis, il y a la température la journée avec les chiffres que je donnais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on vit quand il fait 46, 47, 48 degrés? Quels sont les effets qu'on observe sur le corps humain?
Alors, si on n'a pas la chance, et malheureusement tout le monde n'a pas la chance de bénéficier d'un accès à un système de conditionnement d'air, eh bien, on souffre beaucoup. La température de notre métabolisme, c'est typiquement 37 degrés Celsius à peu près. Nous essayons de maintenir, notre corps essaye de maintenir cette température-là en transpirant quand il est possible de transpirer. Mais ce qui se passe dans certaines des régions que vous avez citées, hein, comme au Pakistan par exemple, c'est que non seulement il fait chaud, mais il fait aussi humide. Et s'il fait humide, la transpiration humaine ne permet plus aussi bien de se refroidir. Et donc c'est très dangereux, parce que quand on a une température du corps humain qui dépasse de quelques degrés, ne fût-ce que de quelques degrés, la température habituelle, les 37 degrés, eh bien ça peut devenir mortel. La combinaison de la chaleur et de l'humidité peuvent devenir mortelles.
Vous nous avez pas... Allez-y, oui. Je vous en prie.
Non, surtout pour les personnes qui sont obligées de vivre ou de travailler dehors, hein, que ce soit les agriculteurs, les personnes qui travaillent pour entretenir les routes, etc., bientôt, ou les personnes qui n'ont pas de moyens d'être ailleurs que dehors, ce sont des conditions qui sont très, très dangereuses.
Et là, en l'occurrence, il y a de nombreux pays qui sont concernés. Ça aussi, c'est une particularité du moment, c'est la superficie des zones qui sont affectées par cette canicule. Ça aussi, c'est hors norme.
C'est à la fois hors norme et à la fois quelque chose auquel on devrait s'attendre, on aurait dû s'attendre si on lit bien les rapports du GIEC, puisque on sait qu'on va vers des situations où des parties entières de la planète risquent de devenir nettement moins habitables, au moins une partie de l'année. Hein. Donc ce sont malheureusement des situations qui rappellent l'urgence de s'occuper beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui de la prévention des changements climatiques et aussi de l'adaptation, là où l'adaptation est encore possible.
À propos d'adaptation, quand on observe ce type de température, généralement ça entraîne une augmentation de la demande en eau et en électricité. Vous mentionniez par exemple l'air conditionné. Oui. Est-ce que les pays qui sont concernés là peuvent faire face à ce type de demande?
Mais malheureusement, bien souvent non, parce que les pointes de consommation liées à l'utilisation des systèmes de conditionnement d'air dans les pays où on a des vagues de chaleur sont parfois telles que le réseau électrique, que les centrales électriques n'arrivent plus à fournir la quantité d'énergie électrique nécessaire. Et donc, dans ces cas-là, on observe malheureusement des épisodes de mortalité importants.
Alors, on a bien compris en vous écoutant que ce qu'on observait en ce moment, cette canicule, c'était un effet du dérèglement climatique sur lequel le GIEC alerte depuis des décennies. Est-ce que ça annonce quelque chose de la saison chaude à venir ou pas nécessairement? Ça peut être un épisode isolé?
Mais vous savez, beaucoup de climatologues s'attendaient à ce que 2025 soit un petit peu moins extrême que ne l'avait été 2023 et 2024, parce que 2023-2024 avait été caractérisé non seulement par l'évolution climatique de la température, mais aussi par la présence d'un événement El Niño, hein, cet épisode pendant lequel une partie de l'océan Pacifique devient plus chaud parce qu'il y a une remontée d'eau chaude venant des profondeurs et cela influence le climat de l'ensemble de la planète, ça influence la température vers le haut. Alors cet événement-là, il est terminé, donc on pensait, on espérait que 2025 allait montrer une température qui n'allait pas en tout cas briser les records de 2024, mais le début de 2025 suggère qu'on est parti peut-être pour briser de nouveau un record. Hein, donc on a tous les signes d'une évolution qui devrait renforcer l'énergie des décideurs politiques pour mettre en œuvre l'accord de Paris beaucoup plus nettement que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Je vous remercie Jean-Pascal Van Hypersel. Je rappelle que vous êtes climatologue à l'Université catholique de Louvain et membre de la plateforme Wallonne pour le GIEC, le groupe des experts pour le climat qui travaille donc depuis des décennies et qui alerte sur les dangers du réchauffement climatique. Le dérèglement climatique qui s'emballe, la nécessité d'agir, c'est ce que vous nous disiez. Mais le président américain qui, lui, continue de balayer toute recherche sur la question, Donald Trump a limogé hier des centaines de scientifiques et d'experts qui avaient travaillé sur les conséquences du réchauffement aux États-Unis. Il venait juste de rédiger un rapport très fouillé sur ce sujet. Nouvelle attaque contre la science en 3 mois de pouvoir, mais le président américain revendique ce mépris pour les intellectuels. Donald Trump, comme son vice-président J.D. Vance, assure depuis le début que eux défendent l'Amérique dite oubliée, un électorat populaire, un électorat blanc, qui compte beaucoup sur eux. Reportage dans l'est du Kentucky, région d'origine de J.D. Vance. C'est une région isolée, désindustrialisée. Et notre correspondant Edward May s'est rendu sur place.
Dans ces vallées qui s'enchaînent, recouvertes de végétation, Jessica Ellis rentre chez elle dans sa maison au bord de cette route sinueuse, à quelques kilomètres de l'ancienne demeure des grands-parents de J.D. Vance et de leur cimetière familial. Jessica, électrice de Donald Trump, explique que tout le monde ici se réjouit de l'arrivée de J.D. Vance à la vice-présidence.
Il comprend la situation ici. Il va pouvoir aider cette région d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer.
J.D. Vance a raconté son histoire familiale entre ces montagnes du Kentucky et les plaines désindustrialisées de l'Ohio, à quelques centaines de kilomètres au nord. Dans son livre « Hillbilly Elegy », il y revendique fièrement ce terme de « hillbilly » qui peut se traduire par « pecno », terme péjoratif employé pour désigner les gens de cette région plus isolés.
Il y a un cliché qui dit qu'on serait pieds nus et stupides, mais comme vous pouvez le voir, je porte des chaussures. Il y a aussi l'idée qu'on ne compte pas, mais J.D. a prouvé qu'on n'est pas stupide.
28% des habitants de ce comté vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale est de 12%. Dans le centre du village, la vitrine d'une épicerie affiche un drapeau « Trump, sauver l'Amérique à nouveau ». Le propriétaire, Kenneth Patrick, en attend également beaucoup du vice-président.
Il va peut-être nous aider à ramener des usines ici dans le comté de Breathitt. Je l'espère. On a besoin de croire. On est en train de devenir un village fantôme et c'est effrayant.
Ici, J.D. Vance, c'est l'espoir d'être mieux représenté et écouté à Washington, comme l'explique Stephen Bowling, le directeur de la bibliothèque publique et historien du comté.
Pendant des générations, on a permis aux autres d'écrire notre histoire. Les gens venaient dans les montagnes pour des pratiques économiques extractivistes. Ils ont pris le charbon, puis sont partis. Ils ont pris le bois, puis sont partis. Comme pour le sel, tout ça a retiré le pouvoir, la stabilité économique et la richesse. Donc maintenant, la possibilité d'avoir une voix à Washington est importante pour les habitants.
Avant son investiture, J.D. Vance est revenu ici, confirmant pour les habitants le dicton local « Le garçon peut quitter la montagne, mais la montagne ne peut pas quitter le garçon ». Edward May Jackson dans le Kentucky, RFI.
Reportage à réécouter sur notre application RFI Pure Radio.
Radio Foot International.
À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, le Real était toujours mené 3-1. Finalement, Étienne Moati, qu'est-ce qui a fait craquer la Real Sociedad ?
La force de l'habitude.
La force de l'arbitrage, non, pardon.
Non, plus de l'habitude.
Nabil. Radio Foot International.
Bah, quand on perd contre le Real, en général, on dit toujours.
On a un argument tout prêt.
Du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU. Sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.